Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, la formation agricole est-elle adaptée à l'agriculture de demain? En ces temps de débat sur le changement climatique et de multiplication des types d'exploitation, de l'intensif au bio en passant par l'agriculture raisonnée, le temps du débat s'interroge ce soir en direct du Salon de l'agriculture de Paris sur l'adaptation des formations pour les agriculteurs et agricultrices de demain. Pourquoi se lancer quand on a moins de 20 ans dans un métier en mutation profonde? Comment la formation initiale, mais aussi celle qui accompagne les reconversions, prépare-t-elle aux incertitudes de l'avenir et aux multiples choix possibles? Nous en parlons avec Cédric Avril, il est directeur du campus Bougainville à Bricomte-Robert.
Bonjour.
En Seine-et-Marne, bonjour. Avec deux des élèves de ce campus Bougainville, Yaël Perrault, bonjour. Et Antoine Gouvenot, bonjour. Vous êtes élève donc et participez au Trophée national des lycées agricoles demain, ici même à la porte de Versailles. Loïc Kellec est avec nous également. Il est éleveur de vaches allaitantes, vice-président des jeunes agriculteurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec également, nous avons également avec nous Charlotte Carglenou-Mélier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éleveuse de vaches laitières à Essay, près de la Roche-aux-Fées, qui me rappelle les yaourts de mon enfance, porte-parole de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine. Et Philippe Vincent est également avec nous. Vous êtes directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Philippe Vincent, je vais commencer avec vous. En tant que directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture, vous êtes déjà intervenu suffisamment sur l'antenne il y a quelques années dans un très bon documentaire que je conseille à écouter, qui avait été signé par Anne-Laure Chouin, qui s'appelait « À l'école des mutations agricoles ». Et vous interveniez déjà en 2018 sur cette question de la formation des futurs agriculteurs et agricultrices. Depuis, il y a une nouveauté, il y a un bus qui traîne autour du salon de la Porte de Versailles. C'est quoi ce bus exactement?
Alors, le bus, c'est d'essayer de mieux faire comprendre ce qu'est l'enseignement agricole dans sa diversité et de partir, sillonner la France pendant 2 mois et demi pour permettre à des jeunes de l'enseignement agricole d'expliquer à leurs camarades de l'éducation nationale ce que c'est que l'enseignement agricole et ce qu'il n'est pas.
Ça veut dire que vous vous adressez non pas à des jeunes qui sont déjà en formation d'agriculteur ou d'agricultrice, mais à des jeunes qui pourraient le devenir.
Absolument. L'enseignement agricole, ça va de la 4e au brevet de technicien supérieur agricole. Donc tous les jeunes viennent de l'éducation nationale. Et des fois, il y a une vision parfois un peu réductrice de ce que c'est que l'enseignement agricole. Et donc, il faut montrer que ça sert à former les agriculteurs, mais également, il y a une très très large gamme de métiers qui peuvent être couverts dans le domaine des services à la personne, de l'environnement, de la nature et même des formations générales. Et c'est ça qui nous paraît important, c'est que l'enseignement agricole, c'est bien sûr former les agriculteurs de demain, mais c'est aussi dispenser une pédagogie différente.
Oui, mais ça veut dire aussi que vous manquez peut-être de personnes pour pouvoir justement rentrer naturellement dans ces formations-là. Ça ressemble un peu à ces bus de l'armée qui circulent ou de la gendarmerie qui disent « engagez-vous, engagez-vous ».
C'est un petit peu, effectivement, aller vers les jeunes pour expliquer ce que l'on fait. Et c'est vrai qu'on a une érosion de nos effectifs jusqu'à présent. Mais l'an dernier, au sein de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a lancé une campagne de communication avec Jean-Michel Blanquer et Madame Pénicaud. Et d'ores et déjà, on a obtenu des effets intéressants puisqu'on a 3000 jeunes de plus dans l'enseignement agricole à la rentrée 2019. Et grâce au bus, on espère aller au-delà pour avoir 200 000 jeunes dans l'enseignement agricole à la rentrée 2022.
Cédric Avril, vous êtes directeur du campus Bougainville. Alors, c'est un lycée public, en l'occurrence, qui se trouve en Seine-et-Marne, à Bricomte-Robert. Et donc, vous avez eu pénurie d'élèves pour pouvoir entrer dans un campus comme celui-ci?
Alors, j'appellerais pas ça une pénurie, en fait. On avait un besoin de revaloriser les formations pour lesquelles on était spécialisé. C'est-à-dire que, globalement, dans un lycée agricole comme le nôtre, on peut se former de la seconde au BTS, mais dans des voies générales, technologiques et professionnelles. Toutes les problématiques de l'agroécologie supposent aussi que nos jeunes que l'on forme au quotidien.
Qu'est-ce qu'on appelle l'agroécologie ? Parce que ça, c'est pas évident pour tout le monde.
Alors, l'agroécologie, c'est une politique, c'est une façon de faire qui permet aux agriculteurs d'employer des techniques qui soient plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Donc, ça suppose aussi qu'on connaisse bien la nature du sol, qu'on connaisse aussi les espèces qui peuplent aussi nos campagnes. Et donc, globalement, il faut être avec un niveau en sciences, en biologie et écologie assez important. Et donc, cette valeur ajoutée, la plus-value scientifique des métiers qui sont tournés vers l'agriculture était peu connue. Donc, comme l'a dit Philippe Vinson, le directeur général, il y avait un besoin de renouveler l'image des formations de l'enseignement agricole. Donc, au campus Bougainville, de 15 à 60 ans, vous pouvez venir vous former, justement, sur toutes ces problématiques-là.
Je suis tout juste dans le haut de la fourchette, pour ma part. Hein. C'est un peu trop tard pour moi. pour vous, comment ça s'est passé, Yaël Perrot et Antoine Gouvenot? Vous êtes tous les deux entrés dans ce campus Bougainville. Yaël Perrot, par exemple, vous n'êtes pas issu du milieu agricole. Quand vous y entrez, c'est parce que vous avez envie de rentrer dans ces métiers de l'agriculture?
Oui, plus tard, j'aimerais bien m'installer. Parce que vraiment, je trouve qu'il faut savoir ce qu'on mange, ce qu'on produit, comment c'est fait. Enfin, c'est un truc qu'il faut partager à tout le monde. Et enfin, pour moi, c'est l'essentiel de la vie.
Et vous, Antoine Gouvenot, comment vous êtes rentré dans ces formations? Vous avez 20 ans, donc vous êtes entré dans une formation pour devenir céréalier, c'est ça?
Oui, dans un premier temps, j'ai les amis de la famille qui étaient céréaliers en Seine-et-Marne, qui m'ont fait découvrir l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est vraiment une vraie passion. Et qui m'ont fait faire des études agricoles, dont un bac CGEA et aujourd'hui un BTS AXE au campus Bougainville.
Loïc Kellec, quand vous vous lancez, vous, dans un BTA, un brevet de technicien agricole, c'était il y a maintenant quoi, une douzaine d'années, une quinzaine d'années? Quel âge vous avez? Non, mais c'est pas, on n'est pas sur des critères d'âge, mais les critères d'âge, c'était pour l'époque de Edgar Pisani, quand il fallait faire partir les agriculteurs les plus âgés pour laisser la place aux plus jeunes.
Alors, pour la première question, j'ai bientôt 34 ans, donc effectivement, les études, ça commence un peu à dater, moins que d'autres, certes, mais ça fait quand même plus de 10 ans que c'est fini.
C'est pour moi, ça.
Donc, moi, j'ai commencé par un bac agricole en lycée agricole, forcément. Donc, j'ai passé 4 ans en bac. Après, derrière, j'ai enchaîné sur un BTS en alternance, en production animale, où là, j'ai vraiment pu, en ayant déjà une connaissance du terrain, parce que j'ai de la famille qui est agriculteur et j'ai grandi dedans. Donc, j'avais déjà une expérience. Mais le fait de le faire en alternance m'a permis de faire le lien entre la théorie et la pratique directement sur l'exploitation. Et ça, c'est quelque chose, si demain il y a un conseil à donner à un jeune qui s'installe, c'est passer par ce dispositif-là. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant.
Il faut dire que, et il faut le préciser à nos auditeurs, qu'il y a différents types justement d'enseignement primaire pour pouvoir justement rentrer dans ce métier d'agriculteur. On peut être par exemple dans les maisons familiales rurales qui font un dispositif en alternance. On est 15 jours dans une famille, on travaille dans une ferme et ensuite on revient en cours. Et puis il y a les lycées agricoles, dont celui dont nous parlons tout à l'heure. Ce lycée agricole, c'est une formation en permanence dans le lycée avec une ferme, souvent une ferme support qui est installée au sein de ce lycée. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte Carglonou-Mélier, parce que vous avez eu un parcours différent. Vous êtes issu du milieu agricole, vous en êtes sorti et vous avez voulu y revenir, mais par un autre moyen.
Tout à fait. En fait, mes parents ont une ferme en vache laitière aussi dans le Finistère. Et en fait, moi, j'ai fait un bac général économique et social. Et ensuite, j'avais vraiment, vraiment envie de faire des études agricoles. Enfin, c'était plus fort que moi. Je disais à mes parents, je veux vraiment faire des études agricoles. J'ai envie d'être dans ce milieu.
Et vos parents ne voulaient pas?
Non, mes parents ne voulaient pas. Ils disaient... Pourtant, mon père était prof et il a voulu s'installer aussi après avoir été prof. Mais il disait, non, mais tu peux pas t'installer. Ça... Non. Et bon, j'ai négocié, j'ai quand même tenu tête et j'ai été faire un BTS production animale, justement, à côté de Rennes. Et donc moi, j'avais aucune connaissance dans les matières agricoles. Et donc, j'ai trouvé ces deux années-là vraiment très enrichissantes, quoi. Ça a fondé les bases quand même du métier que je fais aujourd'hui, quoi. J'ai eu toutes les bases pour vraiment faire mon métier et connaître mon métier, quoi.
Et vous êtes installé donc dans une autre ferme que celle de vos parents. Vous avez ensuite commencé à travailler de façon traditionnelle, pourrait-on dire. Et puis ensuite, vous avez décidé de passer en conversion bio.
Tout à fait. En fait, c'est vraiment l'enseignement que j'ai eu pendant mes 2 ans. Toutes les fermes qu'on a été visiter, les professeurs qu'on avait, qui quand même avaient une certaine ouverture, avaient envie de nous montrer plein d'autres choses. Qui a fait que plus tard, une fois installée, je me suis dit bah oui, en fait, on a vu des choses quand on était à l'école, on a vu des choses, on a été dans des fermes, on a vu qu'il y avait quand même des choses différentes qui pouvaient marcher aussi. Et moi, ça m'a, enfin, j'en étais convaincue. Et du coup, sur la ferme, après, oui, on a mis en place un système herbager. Et plus tard, on est passé en bio, quoi.
Philippe Vincent, c'est aussi cela qui est intéressant, c'est de se demander. Dans ces formations initiales, quand on entre dans un lycée agricole, quand on entre dans une maison familiale rurale, qu'est-ce qu'on voit de la variété de ces exploitations qui est bien plus grande peut-être qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans, puisque évidemment la croissance du bio, etc., fait changer la façon de procéder. Qu'est-ce qu'on voit de tout cela, selon qu'on est dans une maison familiale rurale, selon qu'on est dans un lycée agricole, de cette variété-là?
Je pense que dans une maison familiale rurale, le point important, vous l'avez bien expliqué, c'est cette alternance. Donc on voit une autre exploitation et il peut y avoir d'une vraie diversité en la matière. Dans les lycées publics, il y a soit la voie scolaire, soit la voie de l'apprentissage, qui permet également d'avoir ce régime d'alternance. Et aujourd'hui, la voie de l'apprentissage est très intéressante pour de très nombreux jeunes et c'est une très bonne chose. Et ce qu'on essaie de montrer dans les établissements, c'est la diversité de l'agriculture et qui est ouverte. Et je pense que Madame l'a expliqué tout à l'heure, c'est cette ouverture des enseignants pour laisser aux jeunes capacité à définir leur projet et leur envie et leur souhait. Et c'est vraiment ça, c'est une école de la liberté.
Loïc Hellec, dans le documentaire qui avait été composé il y a 2 ans maintenant par Anne Lorchouin sous le titre de l'école des mutations agricoles, il y avait une jeune fille qui disait « Nos parents ont connu un monde qu'on ne connaîtra jamais en agriculture, on ne le connaîtra jamais plus, et nous on ne sait pas vers où on va, mais ce dont on est sûr, c'est qu'on y va. » C'est-à-dire cet inconnu, un peu d'ailleurs comme vos parents ou vos grands-parents ont été dans l'inconnu dans les années 60 quand on a décidé justement de la grande mutation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture, le départ de beaucoup d'agriculteurs de leur ferme pour pouvoir agrandir les exploitations et faire que les jeunes puissent trouver leur place. C'est une vraie révolution qui est en train de se passer et on ne sait pas très bien vers où on va. Donc effectivement, il faut laisser les portes ouvertes pour permettre à chacun de choisir.
Effectivement, l'agriculture est un secteur, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, est probablement le secteur qui a le plus évolué, où les mutations ont été les plus grandes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça va encore changer, c'est certain, mais de prédire l'avenir, personne n'en est capable. Et moi ou n'importe qui ne peut pas dire ce que sera l'agriculture de demain. On sait aujourd'hui d'où on vient, on sait où on en est. On a quand même des tendances qui se dessinent, notamment au travers du changement climatique, au travers du changement des attentes sociétales, au travers de beaucoup de choses. On sent quand même qu'il y a des évolutions. Et la formation doit être le socle pour permettre aux jeunes générations qui s'installent de pouvoir justement affronter et appréhender ces changements. Et c'est vraiment à travers la jeunesse qu'on arrivera demain à orienter l'agriculture et à faire que cette agriculture soit toujours résiliente et qu'elle soit toujours plus capable de répondre aux enjeux de demain.
Mais on sait tout de même que ça n'est pas si simple quand on est, par exemple, enfant d'agriculteur, de vouloir se lancer dans une conversion bio, si ses parents sont soit eux-mêmes, par exemple, des parents qui pratiquent une agriculture traditionnelle. Ça n'est pas toujours évident, justement, de vouloir changer, parce qu'il y a un fort immobilisme à dire on voudrait refaire la même chose que ce qu'on a fait auparavant, non ?
L'immobilisme, non. L'immobilisme, c'est la meilleure façon justement de régresser. Et une exploitation aujourd'hui qui n'évolue pas, elle les voit disparaître. Donc l'immobilisme, on ne peut pas parler d'immobilisme. Après, l'agriculture aujourd'hui, elle est d'une diversité qui est énorme. Les enfants aujourd'hui d'agriculteurs, mais aussi le public qui n'est pas issu du milieu agricole et qui est de plus en plus présent, a envie de faire peut-être différemment, a envie de faire évoluer les choses. Et pour faire le lien avec le sujet aujourd'hui, c'est vraiment la formation. La formation agricole doit être capable d'apporter des éléments sur une vision très large et très globale de l'agriculture pour permettre à un jeune aujourd'hui de faire ses choix en connaissance de cause avec une vision qui est vraiment très large, qui est capable de peser les pour et les contre et de faire ses choix pour demain.
Cédric Avril, sur ces questions dans un lycée comme le vôtre,
alors justement,
le campus Bougainville.
Effectivement, les deux jeunes qui sont présents à nos côtés sont issus de familles qui sont complètement à l'opposé du domaine agricole, hein, puisque l'établissement est implanté en Seine-et-Marne, certes, mais à 20 km de Paris. Donc globalement, la population agricole n'est pas très nombreuse. Et donc les jeunes qu'on attire à Bougainville particulièrement souhaitent acquérir cette connaissance diverse, multiple, pouvoir être capable de faire ses choix en connaissance de cause, en ayant vu tel et tel domaine, et puis soit repartir dans une profession complètement différente que l'enseignement agricole peut former, soit rester effectivement avec les atouts de l'enseignement agricole, des établissements à taille humaine, pouvoir se perfectionner dans les domaines qui nous correspondent, et puis s'ouvrir aussi sur le monde rural. C'est important aussi dans la mission des établissements d'enseignement agricole, et cette valeur à l'autre, cette ouverture à l'autre est essentielle dans le monde d'aujourd'hui.
Yaël et Anton, vous qui êtes tous les deux encore au lycée, justement, qui vous préparez à ces métiers d'agricultrice et d'agriculteur, vous l'imaginez comment? Vous avez dit tout à l'heure, Yaël, j'imagine être avec les animaux, le bien-être animal, etc. Vous en discutez avec les gens qui sont dans la même classe que vous. Est-ce que tout le monde est d'accord, par exemple, sur cette vision-là, ou est-ce qu'il y a des tensions entre ceux qui, d'une certaine façon, pratiquent une agriculture peut-être plus productiviste et de ceux qui réfléchissent justement à ces questions que vous abordez vous-même, Yaël?
Je pense que la génération de maintenant pense au bien-être animal, parce que vraiment, enfin, je pense qu'on est beaucoup plus touchés par rapport aux différentes manières de production. Puis maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc on voit beaucoup de choses mauvaises.
Les vidéos de L214, vous les avez vues, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Et même, enfin, je suis pas contre ce qu'ils disent non plus, mais il y a des choses quand même qui sont vraiment exagérées. Enfin, tout le monde n'est pas concerné par ça. Et vraiment, nous, on va essayer de montrer que ce qui est dit n'est pas vraiment ça. On veut vous montrer comment on produit nos viandes, comment nos cultures sont faites, pas forcément bio, mais comment dire,
respectueuse.
Voilà, c'est ça.
Anton,
nous, dans notre filière, c'est plus une agriculture de, comment dire, je trouve plus le terme.
Raisonnée.
Voilà, raisonnée. C'est vraiment, on cherche pas la production intensive. Comme disait, on visite beaucoup d'exploitations en agriculture raisonnée, en diminuant le labour évidemment, en diminuant les travaux du champ, en faisant plein de techniques agricoles qui limitent ça, quoi.
Sur cette question, Charlotte Kerglenou-Méliès, vous qui êtes passée en bio, qui avez justement fait le chemin à la fois d'un métier qui n'était pas agricole, venant d'une famille agricole, et puis ensuite vous êtes passée à l'agriculture bio, est-ce que quand vous regardez les formations, vous vous dites il manque des choses qu'il faudrait mettre en place? Vous êtes une femme, est-ce que par exemple quand on est une femme, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait admises ou qui ne sont pas possibles? Je crois que vous vouliez vous intéresser à la question du diplôme pour conduire un tracteur,
ouais,
par exemple.
Oui, parce qu'en fait, j'ai eu deux années de suite une stagiaire qui est venue d'Allemagne. Et en fait, dans son école d'agriculture, eh ben, on passe un permis tracteur. Et comme ça, au moins, les filles et les garçons apprennent à conduire le tracteur. Parce que moi, je pars du principe que conduire un tracteur, c'est des compétences qu'on doit avoir dans notre métier. Et du coup, l'école doit aussi nous apporter ces compétences-là. Et quand on pose la question souvent aux maîtres de stage, est-ce qu'ils ont appris aux filles qui vont sur leur ferme à conduire le tracteur? Et souvent, c'est pas le cas. Je voulais juste revenir, en fait. Moi, je trouve que l'école aussi, elle doit vraiment partir, enfin, préparer les élèves à toutes les transitions, enfin, tous les défis qui attendent l'agriculture de demain, justement. Et aujourd'hui, en fait, quand même, j'ai l'impression que c'est en fait en fonction du professeur qu'on va avoir qu'on aura aussi cette ouverture. Parce que si j'ai bien regardé,
c'est important du maître de stage, par exemple. C'est du maître de stage ou du professeur?
Du maître de stage et du professeur. Mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde dans les référentiels en fait des formations, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de module écrit, enfin dans la référence, qu'on doit par exemple enseigner d'autres alternatives. En fait, par exemple, montrer aussi qu'on peut faire de l'agriculture sans chimie, sans engrais, qu'on peut aussi, qu'il y a d'autres modèles qui existent. Et ça,
il n'y a pas d'obligation, mais non, ça se fait quand même. Parce que
ça se fait au bon vouloir. Et moi, j'avais un prof de zootechnie que j'aimais beaucoup, mais je suis désolée, son référentiel, il était très 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 vieux. Et en fait, bah voilà, je veux dire, moi j'avais mes parents qui étaient éleveurs, mais les autres élèves n'avaient pas forcément de parents éleveurs, et du coup ils se basaient sur ce qui était enseigné, alors qu'on peut aussi voir plein d'autres choses. Et ça, c'est ça aujourd'hui, c'est pas assez important.
Vous écoutez Le Temps du Débat en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, et notre thème c'est la formation agricole. La formation agricole est-elle adaptée à l'agriculture de demain?
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Et nous sommes en compagnie de Loïc Kellec. Il est éleveur de vaches allaitantes et vice-président des jeunes agriculteurs. Charlotte Carglenou-Mélier est éleveuse de vaches laitières et porte-parole de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine. Et nous avons également avec nous Cédric Avril, directeur du campus Bougainville à Bricont-Robert, avec deux de ses élèves, Yaël Perrault et Antoine Gouvenot. Et vous êtes également avec nous, Philippe Vincent. Vous êtes directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Ce qui vient d'être dit à l'instant par Charlotte Carglenou-Mélier, c'est une question intéressante, de se poser la question de savoir qui va vous donner envie d'aller plutôt dans un type d'agriculture que dans un autre, par exemple. C'est le maître de stage ou c'est le professeur, et il n'y a pas d'obligation pour que tous les lycées ou toutes les formations soient également avec un même type de répartition des différents types d'agriculture qui sont présents dans tous les lycées ou dans toutes les formations.
Donc c'est vrai que l'enseignement agricole, c'est une école de la diversité. Et l'État, le ministère de l'Agriculture...
Ça, c'est la façon positive de le dire.
Oui, on laisse énormément d'autonomie aux établissements. Ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Et ça fait partie de notre culture pour s'adapter au territoire, s'adapter aux jeunes et s'adapter également aux enseignants. En revanche...
Il y a à peu près 8 lieux de formation par département, c'est ça, en gros?
Il y a 800 établissements, France entière. Donc en Vendée, il y en a beaucoup plus. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, on doit en avoir 3. Donc ça fixe un peu le... Et à Paris, il y en a une qui est l'école du Breuil. Donc il y en a partout. Donc, on peut toujours entrer près de chez soi. Ce que je voulais dire sur cette question, qui est une question importante, c'est qu'on fixe des objectifs. Et c'est vrai que l'objectif agroécologie est un objectif qui a été mis en place par la précédente mandature, et là on accélère. Et je dirais que le ministre a souhaité que pour la rentrée 2025, on ait dans les exploitations de l'enseignement agricole public 100% des terres en bio, en haute valeur environnementale de niveau 3 ou en production sous signe de qualité. Donc ça donne cette orientation. Et ça, je crois que c'est important. Et les choses bougent. Mais bien évidemment, vous pouvez avoir les cas que vous évoquez. Et c'est pour ça qu'on porte beaucoup d'attention à l'ouverture au monde, à l'ouverture sur le territoire et à la formation continue des enseignants.
Cédric Avril, par exemple, si on prend l'exemple du campus Bougainville, comment vous appliquez le plan enseigner à produire autrement, qui a été le plan voulu par le précédent, un précédent ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dont le deuxième volet, je crois, s'applique maintenant là.
Alors, pour compléter à ce que disait ma voisine, c'est qu'effectivement, dans les établissements d'enseignement agricole, et je rebondis sur les propos de Philippe Vincent, on a ce qu'on appelle des projets d'établissement qui sont bâtis effectivement sur les politiques publiques essentiellement, et aussi par rapport au territoire dans lequel l'établissement est implanté.
Et les lycées ou lieux d'enseignement privé, qui sont quand même 60%, les appliquent aussi
les politiques publiques, tout à fait. Et globalement, le plan enseigner à produire autrement, version numéro 2, et effectivement, c'est une accélération du plan qui était précédent. Et globalement, c'est une feuille de route.
Donc
qu'il faut
être
les établissements.
À l'écoute des élèves, c'est ça?
Il faut être à l'écoute des élèves.
Intégrer la formation en agroécologie.
Exactement.
En
il faut être aussi en lien avec les professionnels du territoire, puisque je rappelle que dans nos conseils d'administration ou dans nos conseils consultatifs, les professionnels agricoles siègent. Ils ont leur mot à dire. Donc c'est une force pour nous, parce que le lien avec la profession est une force plutôt qu'une faiblesse. Et je tiens à dire aussi que les enseignants, les équipes pédagogiques se sont mobilisées dans tout ce travail de rénovation des référentiels pour les rendre beaucoup plus respectueux de l'environnement. Je parle simplement des référents enseignants à produire autrement. Dans chaque établissement, il y a une personne qui est référente pour appliquer et pour diffuser cette politique au sein de la communauté éducative. Donc très sincèrement, beaucoup de relais sont présents, beaucoup de garde-fous sont présents pour pouvoir appliquer cette feuille de route au sein des établissements d'enseignement agricole.
Loïc Kellec, un syndicat comme le vôtre, les jeunes agriculteurs, vous qui êtes en charge justement du dossier d'installation des jeunes, mais aussi de la formation dans ce syndicat, quel rôle a-t-il justement en tant que syndicat professionnel justement pour pouvoir pousser tel ou tel mode d'agriculture, ou pour pouvoir pousser la variété des modes d'agriculture de demain justement?
pense que la première chose, effectivement, qu'il faut mettre en avant, c'est que l'agriculture française, elle est très diverse, mais elle est très diverse par ses territoires, elle est très diverse par ses hommes et ses femmes qui font cette agriculture. Et on a besoin de cette diversité. Si aujourd'hui la France est ce qu'elle est, c'est aussi par la diversité de son agriculture. Donc aujourd'hui, à travers la formation, nous, ce qu'on on travaille avec le ministère, il faut le dire aussi. Là, en ce moment, il y a une réforme qui se prépare justement sur l'enseignement agricole. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on soit capable, par l'enseignement agricole, de former au métier de l'agriculture. C'est de former des techniciens, de former des personnes qui vont nous accompagner sur le terrain, mais aussi, et aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque et ce que malheureusement on constate, c'est de former de réels chefs d'entreprise avec de réelles compétences en gestion,
par exemple,
de réelles compétences techniques.
Vous êtes obligé de vous former en dehors des lieux d'enseignement habituellement.
Et pour finir, de réelles compétences en ressources humaines. C'est des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé quand on est dans l'enseignement agricole. Effectivement, il y a un pont à faire aussi, et vous faites la transition entre la formation initiale, qui est aujourd'hui ce qu'elle est. Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai vécu. J'ai toujours eu la chance d'avoir d'excellents professeurs, d'excellents formateurs qui m'ont toujours offert une vision très large de l'agriculture et qui m'ont permis, moi, de me situer et de me placer et de me mettre dans mon territoire, dans mon métier.
De vous laisser choisir.
Et de faire ce que je voulais comme je voulais le faire. Et aujourd'hui,
donc
je suis très fier de ce que je fais.
Vous êtes agriculteur en montagne, effectivement. Et donc,
aujourd'hui, je pense que, comme tous les agriculteurs de France, je suis très fier de ce que je fais, de la manière dont je le fais, et je suis parfaitement serein vis-à-vis de ce que j'entends. Mais demain, la profession agricole, elle va évoluer, effectivement. On a besoin de tous ces métiers-là autour de nous, mais on a besoin de réellement être des chefs d'entreprise. Agriculteur, c'est un métier, il faut le réaffirmer. C'est malheureusement le seul métier en France et au monde, peut-être, qui n'a pas besoin, qui n'oblige pas à être formé, à avoir une formation agricole. Et ça, c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous paraît aberrant. On ne peut pas prendre la responsabilité de nourrir nos concitoyens sans être formés.
Et pour vous, Charlotte Carglo-Noumélier, vous qui êtes donc aussi responsable dans un autre syndicat, la Confédération Paysanne, qu'est-ce que vous pensez justement du rôle des syndicats dans la formation, dans le suivi de ceux qui s'engagent justement dans leur métier pour pouvoir justement les faire aller là où ils le souhaitent avec le plus de liberté possible?
Je trouve que notre rôle est très important, et d'ailleurs j'invite un certain nombre de chefs d'établissement à nous inviter, à la Confédération Paysanne, à venir parler avec
vous
les élèves.
Vous n'êtes pas si souvent invité que ça?
Si, on est quand même invité. Par contre, voilà, quand je disais, moi aussi je suis pour la liberté des enseignants de faire un peu ce qu'ils veulent, mais il y a des enseignants qui ne veulent pas inviter la Confédération Paysanne, et ça c'est un fait. Et ça me dérange aussi. Quand on parlait de la réforme avec Muriel Pénicaud, il me semble en fait qu'avant, on était un certain nombre d'organismes et citoyens, mais aussi des enseignants à être autour de la table, c'est toujours le cas. Mais pour parler du contenu de la formation, aujourd'hui, il n'y a plus que 5 personnes qui ont droit de vote, et la Confédération Paysanne est absente. Et voilà, c'est pas pour venir pleurer, mais c'est juste pas normal que l'ensemble des acteurs de la filière soient représentés quand on parle du contenu de formation. Voilà, ouais. C'est quelque chose d'important,
c'est
je pense.
C'est pire dans votre jardin, Philippe Vincent.
La liste des gens qui ont droit de voter.
Je dirais simplement que dans ce qu'on appelle les instances de l'enseignement agricole, on débat toutes les questions de formation avec à la fois les professionnels agricoles, également les parents d'élèves qui sont très importants, les délégués des élèves qui ont un rôle éminent, et bien évidemment les représentants des enseignants pour justement essayer de traduire en programme la réponse aux besoins des professionnels. C'est ça qui est pour nous le plus important. Et il y a vraiment ce travail d'écoute et de concertation qui permet de faire évoluer les choses.
Mais il n'y a pas de droit de vote pour tout le monde. Il n'y a que 5 personnes. Et d'ailleurs, le MEDEF a aussi droit de voter pour le contenu des formations agricoles et la FNSEA, mais pas les autres syndicats. C'est une réalité. Enfin, voilà, j'aimerais bien comprendre pourquoi, en fait.
Parce qu'on a voulu un peu resserrer, en fait.
Resserrer quoi?
Resserrer.
La FNSEA ne représente pas tous les agriculteurs, je suis désolé.
Voilà, ça c'est une demande, on l'assurera.
Justement, on est dans une démocratie, il y a beaucoup d'agricultures différentes, beaucoup de forces vives de partout, et il faut les utiliser.
Yael Perrot et Antoine Gouvenot, est-ce que, par exemple, vous avez été alerté dans votre formation au lycée du campus Bougainville? Est-ce que vous avez été alerté sur les questions, par exemple, de sécheresse, de pénurie en eau, par exemple, vous qui êtes céréalier, qui voulez être céréalier, par exemple, Antoine Gouvenot, est-ce qu'on vous a dit, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, les pénuries d'eau vont faire en sorte que on devra changer le type d'agriculture qu'on est en train de fabriquer parce que on n'aura plus assez d'eau pour pouvoir faire pousser les plantes. Alors c'est moins vrai pour la céréale que pour le maïs dans le sud-ouest, mais tout de même.
techniquement sur le lycée, pas forcément, mais après c'est surtout les vécus de stage qui nous permettent d'apprendre beaucoup mieux et plus efficacement que sur le lycée. Et c'est vraiment sur le stage où on apprend comment on produit et ses manques, s'il manque les pénuries d'eau ou...
Et ça veut dire que si vous vous engagez dans ce métier, si vous voulez devenir céréalier, par exemple, il va falloir que vous réfléchissiez. Alors, soit on inventera de nouvelles catégories céréales qui auront besoin de moins d'eau, ce qui est possible, hein, tout à fait. La recherche peut avancer dans ce sens-là. Mais aussi, à un moment ou à un autre, il y aura des arbitrages à faire entre les agriculteurs, la ville à côté, qui aura besoin d'eau pour pouvoir nourrir ses habitants, etc., etc. Vous y avez réfléchi à ces questions ou c'est... Trop éloigné encore.
Non, c'est vraiment, pour moi, c'est loin, mais faudra y réfléchir, oui. Yael
Perrot, est-ce que ces questions, vous qui vous destinez à l'élevage plutôt, est-ce que ça vous intéresse ?
Ces questions, ils sont évoquées en cours. On essaye de nous sensibiliser par rapport à ça, par rapport au climat qui change vraiment. Et moi aussi, je pense que c'est plus du vécu par rapport au stage. On a beaucoup de sécheresse. J'étais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu beaucoup de sécheresse cet été et ça joue beaucoup. Et du coup, oui, il faut bien penser aux différents changements qu'on va pouvoir faire sur différentes manières. Enfin, je pense que on devrait être accompagné pour ça, en fait.
Cédric Avril, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le rôle aussi des institutions que vous représentez, les lycées ou d'autres lieux d'enseignement, que d'entendre justement des élèves qui sont peut-être plus avancés que nous-mêmes sur ces questions d'écologie, d'agroécologie, de crainte de voir l'eau manquer, par exemple, pour les cultures.
Alors justement, les élèves sont souvent consultés, hein, dans les instances internes de l'établissement, notamment au travers du conseil des délégués, mais pas seulement. Et ces préoccupations nous ont fait changer l'orientation de l'exploitation agricole que nous avons au sein de l'établissement, puisque nous avons la chance d'avoir une exploitation à vocation pédagogique au sein de l'établissement. Et donc, ça nous a permis...
Vous avez changé comment, alors ?
De faire des choix. C'est-à-dire que, globalement, nous avons la chance, nous, à Bougainville, d'avoir un forage. Donc, déjà, au niveau de la ressource en eau, ça nous permet aussi de la réguler. D'avoir changé notre façon d'irriguer aussi les cultures, puisque nous avons 120 hectares de grandes cultures sur le site. Et donc, du coup, il y a eu toute une étude avec les enseignants d'agronomie, notamment pour savoir quel type de culture on allait semer pour pouvoir justement aller vers une consommation amoindrie de la ressource naturelle. Donc, tout ce cheminement, nous l'avons déjà, mais il est vrai que les élèves, petit à petit, on les associe avec l'évolution de la pratique de l'exploitation que nous avons sur site. Et puis, l'apport, et justement, les étudiants l'ont rappelé, hein, des maîtres de stage qui sont véritablement nos partenaires dans l'éducation des jeunes n'est qu'un atout fondamental.
Philippe Vincent.
Ce que je voulais quand même rappeler, c'est qu'un lycée agricole, ce n'est pas uniquement un établissement où il y a des enfants d'agriculteurs qu'on forme à l'agriculture. Il y a aujourd'hui 10% d'enfants d'agriculteurs et à peu près 25% des formations qui sont en lien direct avec l'agriculture. Donc vous avez dans le même établissement...
Toutes les autres sont...
Voilà, des jeunes qui veulent devenir agriculteurs, mais des jeunes qui veulent également travailler pour la protection de l'environnement, dans les services aux personnes. Et donc il y a un débat. Donc, parce qu'il y a vraiment des sensibilités extrêmement différentes. Et ça, c'est de ce débat que naissent également ces évolutions. Je pense que c'est très important pour nos auditeurs et pour les jeunes qui peuvent être intéressés par l'enseignement.
Charlotte Carglonou-Mélier, on a parlé de formation initiale, mais il y a la formation permanente, il y a la reformation de gens qui, comme vous, avaient une autre formation et qui revenaient un peu plus tard pour pouvoir se former au métier de l'agriculture. Cette formation, elle est payée par qui ? Je crois qu'il y a un organisme paritaire qui s'appelle Vivea qui permet de former des actifs non salariés agricoles, etc. Est-ce que ça fait partie justement de la... Non, c'est pas ça. Vous faites non, Loïc Kellec. Allez-y, dites-le.
Non, effectivement, la formation continue et doit être un prolongement de la formation initiale et doit permettre à un agriculteur ou à n'importe qui, j'ai envie de dire même, de pouvoir continuer à se former et se remettre un peu à niveau tout au long de sa carrière pour suivre les évolutions, pour se mettre à jour, tout simplement. Vous avez cité Vivea. Vivea, c'est un fonds de formation auquel cotisent les chefs d'exploitation, les non-salariés agricoles. Aujourd'hui, on est sur une réforme profonde de Vivea. Et effectivement, ça pose question la suite. avec les propositions qui sont faites par Vivea, ça pose question pour la suite, pour la capacité et la latitude qu'on va pouvoir avoir, nous, en tant que chef d'entreprise, à pouvoir continuer à se former tout au long de la carrière. Là où le lien il est intéressant avec justement tout ce public, ce nouveau public, enfin qui est plus si nouveau que ça, parce que depuis le temps qu'on le dit qu'il est nouveau, ça commence quand même à rentrer dans les mœurs, c'est justement pour accompagner ces personnes-là qui, eux, ne sont pas cotisants à Vivea. Et alors, il y a divers moyens pour financer des formations. Il y a les CIF, il y a le CPF aussi qui est...
Le compte personnel de formation.
Voilà, le compte personnel de formation, pardon. Et effectivement, voilà, tous ces fonds-là, ils existent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive, peu importe la personne, à l'accompagner le plus longtemps possible et de la meilleure manière possible.
Charlotte Carglou-Moumélier.
Oui, en fait, par rapport à tous ces gens qui arrivent et qui ne sont pas issus du milieu agricole, il y a des jeunes et des moins jeunes, mais qui sont tout à fait capables d'avoir une ferme et de la mener à bout pendant plusieurs années. Et justement, ce public-là, bah, c'est une chance de l'avoir et on veut le garder, on veut les accompagner.
Il croit d'ailleurs, ce public, il est plus nombreux qu'il ne l'était auparavant.
Ah bah oui, il croit énormément, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont fait autre chose et qui ont vraiment envie de revenir à la terre. Et comment on fait pour les garder, ces gens-là? Ça passe aussi par la formation, parce que entre l'idée et la réalité, on sait qu'il y a un grand fossé. Enfin, entre avoir envie de revenir à la agriculture et une fois qu'on a mis les mains dedans. Donc pour nous, il faut aussi et il faut développer toutes les phases de test, en fait, tester son métier en grandeur réelle pendant une certaine période, voir tout ce à quoi on n'avait pas à penser, mettre des formations en place, mais surtout beaucoup de terrain, en fait, parce que ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup d'idées, ils ont aussi la tête souvent pour ça, mais le concret, c'est plus difficile. C'est...
Philippe Vincent, est-ce que vous y pensez au ministère, justement, à ces formations dans un deuxième temps pour des gens qui reviennent à l'agriculture et qui veulent faire autre chose que ce qu'ils avaient fait auparavant?
Ah oui, c'est un gisement très important, puisque à peu près le tiers des installations aujourd'hui en France, et l'âge moyen d'installation, c'est plus de 30 ans, hein, c'est 32 ans environ. Et on a justement, dans nos établissements, qui sont des campus, hein, comme l'a dit Cédric Avril, avec de la formation initiale, mais également de la formation pour adultes. Et ça marche très très bien pour justement permettre à des gens qui ont déjà des formations de s'installer avec succès dans l'agriculture, ce qui impose à la fois ce qui a été dit par Loïc Kellec, hein, des connaissances techniques, mais aussi économiques, gestion du personnel, pour pouvoir faire cela, et souvent en groupe, parce que quand même ce qui est très sécurisant pour des jeunes ou des moins jeunes qui s'installent, c'est de ne pas être façon de faire individuellement, mais avec un groupe.
Avec effectivement une bonne perspective d'insertion professionnelle, puisque je crois que c'est 96 ou 97% des gens qui font des formations agricoles finissent par trouver du travail assez rapidement, Cédric Avril.
Et du coup, effectivement, et je tiens à souligner, cette idée de campus n'est pas vaine, c'est-à-dire qu'on rassemble des jeunes, des moins jeunes, des apprentis, des stagiaires, des adultes, des élèves, dans un même objectif, c'est-à-dire l'aventure du vivant, c'est pas un vain mot. Quand ils viennent chez nous, soit ils se reconvertissent, soit ils s'aguerrissent sur des techniques particulières, ou soit ils continuent à se former tout au long de leur vie pour apprendre des nouvelles techniques. Je prends l'exemple que j'ai eu la semaine dernière à l'établissement, où un cadre sup parisien souhaitait arrêter, changer de vie, de prendre le métro et monter sa petite entreprise agricole avec des légumes bio. Et il est venu se former chez nous, et donc il a fait une cressiculture, et ça marche très très bien pour lui. Et donc du coup, c'est l'image parfaite de la nouvelle formation agricole de notre pays.
Merci à tous les six d'être venus discuter de ces questions autour du micro du temps du débat. On pourrait continuer effectivement plus tard pour parler de ces questions de formation permanente, mais on s'arrête parce qu'il est l'heure, et on souhaite surtout bon vent à nos deux jeunes, Yaël Perrot et Antoine Gouvenot, pour votre installation future. C'est pour quand, Yael Perrot, vous pensez?
Pas pour tout de suite. je pense encore continuer plein de formations et tout. Alors, pas pour maintenant.
Et pour vous, Antoine?
Oula, on va finir par une licence déjà, et on verra ultérieurement les futurs projets.
Merci en tout cas à tous les quatre et quatre autres d'être venus autour de ce micro. On remercie la technique à la Maison de la Radio, Thibaut Nassimben, Clément Vuillet, Antoine Gomez, Dominique Allard, à la réalisation Alexandre Manzanares, et évidemment toute l'équipe du Temps du Débat, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bas, Hugo Boursier et Manon Prissé.